Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition Le Monde Aujourd'hui de 19h30 temps universel du mercredi 11 décembre 2019. Fekki Abadou à la présentation. Voici les titres. Au Niger, au moins 60 personnes tuées dans une nouvelle attaque dans l'ouest du pays. En Algérie, à moins de 24 heures de la présidentielle, des milliers de personnes protestent dans la capitale. Nous ferons un détour au Gabon pour visiter la route nationale, synonyme de route de tous les dangers.
Il faut qu'un engin puisse les tirer.
2h du matin, je suis bloqué. Après, les Gabonais parlent qu'ils ont les routes chez eux. Hein, quelle honte. Quelle honte.
En Israël, de nouvelles élections législatives sont envisagées début mars, les troisièmes en moins d'un an. Ne manquez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Ce sera dans 10 minutes, juste après le journal. Au Niger, l'attaque mardi d'un camp de l'armée nigérienne à Inates, près du Mali, a fait plus de 60 morts selon une source sécuritaire. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'attaque a fait plus de 60 morts. Les terroristes ont pilonné le camp à l'aide d'obus et de mortiers. Les explosions, des munitions et de carburant sont surtout à l'origine de ce bilan très lourd, a indiqué une source. Ce bilan est le plus lourd subi par l'armée nigérienne depuis le début des attaques djihadistes dans le pays en 2015. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a interrompu sa visite en Égypte pour rentrer à Niamey. Ce même camp d'Inates avait subi une attaque en juillet dernier où plusieurs soldats nigériens ont été tués. Mardi, le gouvernement a prorogé de 3 mois l'état d'urgence décrété depuis 2017 dans plusieurs départements. La région de Tawa et celle voisine de Tillabéri sont la cible d'attaques de plus en plus fréquentes menées par des djihadistes. Depuis octobre, il est interdit aux organisations humanitaires de se rendre dans certaines zones sans escorte militaire.
La mise en garde du chef de la diplomatie française à quelques jours d'une rencontre à Pau en France entre le président Emmanuel Macron et 5 de ses homologues du Sahel, Jean-Yves Le Drian a indiqué que Paris repensera son positionnement militaire dans la région si certains malentendus ne sont pas levés. Abdourahmane Dia.
Dans une interview au quotidien Le Monde, Jean-Yves Le Drian a également souligné que les 5 chefs d'État du Sahel conviés le 16 décembre en France pour clarifier leur position sur la force française Barkhane avaient été consultés au préalable sur cette réunion. Nous avions sondé auparavant nos interlocuteurs sur leur disponibilité à venir, a-t-il révélé alors que l'invitation des 5 présidents a été perçue comme une convocation et diversement appréciée dans leurs pays respectifs. Parmi les points à clarifier, le ministre a mis l'accent sur le ressentiment anti-français au Sahel et le retard dans la mise en œuvre des accords de paix au Mali. Sommes-nous bien d'accord pour poursuivre ensemble ce combat contre les djihadistes? Il faut se le redire et que les autorités concernées le redisent à leur opinion, a insisté le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian a souligné que la France avait déjà perdu 41 soldats au Sahel et qu'elle intervenait à la demande des pouvoirs en place.
Le Burkina Faso commémore ce mercredi 11 décembre le 59e anniversaire de son accession à la dépendance, l'occasion pour le président Rochmar Christian Kabore de s'adresser à la nation. Lors de son allocution, son message était dominé par la question sécuritaire et l'unité de la nation. En Côte d'Ivoire, après 6 mois de voyage à l'étranger, Guillaume Soro sera de retour le 22 décembre pour lancer sa campagne électorale pour la présidentielle de 2020, selon son proche Alain Lobognon. À 47 ans, Guillaume Soro a déjà une longue carrière politique comme ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Actuellement en France, il a rompu tout contact en début d'année avec le président Alassane Ouattara et la coalition au pouvoir, le RHDP. Au Cameroun, la région de l'extrême nord est confrontée depuis plusieurs mois à un regain d'attaques de djihadistes de Boko Haram qui ont tué 275 personnes depuis le début de l'année, a rapporté ce mercredi Amnesty International. L'ONG dénonce également des pillages et des incendies de maisons et de centres de santé. La Cour pénale internationale a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés de 2 ex-chefs milices centrafricains, dont Patrice Edouard Ngaïsona, un ancien responsable du football africain. La police sénégalaise a intercepté près des côtes de Dakar une embarcation transportant 30 migrants sénégalais et gambiens en route pour l'Espagne. Cette interception intervient après le naufrage le 4 décembre dernier face aux côtes mauritaniennes d'une embarcation transportant près de 200 migrants qui comptaient rejoindre les Canaries, archipel espagnol au large du Maroc. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le chef rebelle Riek Machar se sont brièvement rencontrés à Juba à l'approche d'une date butoir pour la formation d'un gouvernement d'union. De nombreux pourparlers sous l'égide de l'Union africaine avaient échoué auparavant. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a attribué une partie des coupures d'électricité de ces derniers jours à des actes de sabotage. Des milliers de personnes ont manifesté à Alger ce mercredi contre l'élection présidentielle à moins de 24 heures d'un scrutin rejeté par la rue. Précision Nathalie Barge.
Plusieurs groupes de manifestants se sont rassemblés dans la matinée à Belouizdad. Ils ont ensuite pris la direction de la Grande Poste où ils ont rejoint d'autres manifestants après avoir contourné des cordons de policiers anti-émeutes. En début d'après-midi, d'autres groupes ont forcé le cordon de police pour se rassembler dans ce haut lieu de la contestation à Alger. La police a procédé à une vingtaine d'arrestations après avoir tenté de repousser les manifestants qui refusaient de quitter la rue et qui ont affiché la ferme intention de rester toute la nuit. Pas de marche arrière, le pouvoir à la fourrière, ont-ils scandé, conspuant le général Ahmed Gaït Salah, qui assume ouvertement le pouvoir depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Des manifestations réclamant l'annulation du scrutin se déroulent également en province, notamment à Constantine, Béjaïa, Tlemcen Bouira et Tizi Ouzou.
Au Maroc, les défenseurs des droits humains se mobilisent pour faire abroger les lois criminalisant l'adultère et l'homosexualité alors que le Parlement examine une réforme du code pénal. La question des libertés individuelles a été au cœur d'un vaste débat du fait des démêlés judiciaires de la journaliste Aja Reissouni, condamnée mi-octobre avant d'être graciée par le roi dans la foulée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Israël, les députés ont donné leur accord préliminaire à la convocation de nouvelles élections législatives début mars, les troisièmes en moins d'un an. Elles s'annoncent comme un nouveau duel entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz. Le point avec Idriss Fall.
Les députés israéliens ont jusqu'à 21h59 GMT pour offrir une majorité aux deux rivaux. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz ont été au coude à coude lors des législatives en avril puis en septembre. Tous les deux n'ont jamais pu rallier la majorité de 61 élus sur les 120 de la Knesset. Ce matin, un comité parlementaire a proposé de voter la dissolution de l'hémicycle pour convoquer de nouvelles élections le 2 mars prochain. Ce projet réduit les chances d'un accord de dernière minute pour la formation d'un gouvernement d'union. Monsieur Netanyahou, inculpé pour corruption, souhaitait le diriger dans l'espoir d'obtenir l'immunité, ce que Monsieur Gantz refuse, estimant que son rival doit d'abord régler ses démêlés avec la justice. Entre les deux se tient le nationaliste Avigdor Lieberman, le faiseur de roi dont le soutien à l'un ou à l'autre pourrait suffire à décrocher une majorité et éviter de nouvelles élections. C'est une course contre la montre, car à minuit heure d'Israël, le Parlement sera dissous s'il n'y a pas d'accord.
À la veille d'élections cruciales pour le sort du Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson et son adversaire travailliste Jeremy Corbyn abattent leurs dernières cartes pour remporter un scrutin qui s'annonce serré au vu des derniers sondages. Boris Johnson a convoqué ces élections avec l'espoir d'obtenir une majorité absolue lui permettant de sortir du processus de l'impasse et de tourner la page de cette saga qui divise profondément son pays depuis le référendum de 2016 remporté à 52% par le Leave. En Afghanistan, une attaque revendiquée par les talibans contre un hôpital en construction près d'une base américaine au nord de Kaboul a fait 2 morts et 73 blessés civils. C'est ce qu'a indiqué le ministère afghan de l'Intérieur alors que des discussions ont repris entre Washington et les insurgés. Les États-Unis espèrent pouvoir élargir le dialogue avec l'Iran sur les prisonniers américains détenus par Téhéran, mais ont annoncé mercredi de nouvelles sanctions pour montrer qu'ils ne relâchent pas leur pression maximale. Un échange de prisonniers entre les deux pays ennemis a eu lieu durant le week-end sous la houlette de la Suisse, avec la libération d'un Américain emprisonné en Iran pendant plus de 3 ans et d'un Iranien détenu aux États-Unis depuis 2018. Les autorités iraniennes se sont depuis dites prêtes à d'autres échanges. Par ailleurs, Téhéran affirme avoir déjoué récemment une cyberattaque très organisée ayant visé ses infrastructures de services publics en ligne. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Télécommunications iranien. L'armée birmane a peut-être fait un usage disproportionné de la force contre la minorité musulmane Rohingya, mais sans intention génocidaire, a déclaré l'ancienne icône de la démocratie Aung San Suu Kyi devant la Cour internationale de justice. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La Société nationale d'électricité du Burkina Faso a lancé le projet de développement des connexions à l'électricité. L'objectif est de connecter 50 000 nouveaux clients au réseau électrique dans les localités urbaines de Tengodogo, Ouagadougou, Kaya, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Wayougouya. Les populations seront connectées au réseau électrique après paiement de 3 000 francs CFA. Le solde du coût de la connexion, qui s'élève à 200 000 francs CFA, sera progressivement retenu sur les factures des clients sur une période maximale de 5 ans. Le projet ambitionne de raccorder 250 000 nouveaux clients chaque année. Teranga Gold a conclu un accord avec le géant minier Barrick et son partenaire de co-entreprise la Sestao pour acquérir 90% de participation dans la mine Massawa au Sénégal pour près de 430 millions de dollars. Les deux sociétés partenaires recevront un paiement initial de 380 millions de dollars, dont 300 millions en espèces et 80 millions en actions. La transaction comprend également un paiement conditionnel pouvant atteindre 50 millions de dollars selon le cours moyen de l'or sur les 3 ans qui suivront sa clôture. Pour terminer, Madagascar prévoit d'augmenter ses redevances sur le nickel et le cobalt à 4% contre 2% actuellement. Selon le ministère des Mines, le projet de loi minière propose également de permettre au gouvernement malgache de prendre au moins 20% du capital de toute production minière commercialisable.
C'est l'heure de la page sportive présentée par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
Le tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2022 de football aura lieu en janvier prochain.
Oui, la FIFA a dévoilé les dates des tirages au sort de la phase de groupe des éliminatoires en Amérique du Sud et en Afrique. Sur le continent, la cérémonie aura lieu le 21 janvier prochain au Caire. Le tirage concernera 40 pays, dont les 14 qualifiés du tour préliminaire. Le classement de décembre servira de repère pour composer les 10 groupes de 4. Ce second tour des qualifications débute en mars pour prendre fin en octobre 2021. À l'issue de cette phase, les 10 premiers de chaque groupe se qualifient pour le troisième tour. À cette étape, des barrages auront lieu entre les 10 équipes pour délivrer les 5 billets pour le Qatar. La phase finale de la Coupe du Monde 2022 aura lieu du 21 novembre au 18 décembre.
Amani Yao est le nouvel entraîneur du FC San Pedro.
Et oui, l'ancien international ivoirien remplace à ce poste Gianni Tarek, absent sur le banc le week-end écoulé contre Enimba Aba au Nigeria. Le FC San Pedro, vainqueur de la Coupe nationale, s'est séparé de son entraîneur tunisien. Amani Yao a déjà entraîné des clubs ivoiriens comme la Lonassi, la FAD, l'AS Tanda et la SEC Mimosa. Il a pour objectif de redresser la barre en Coupe CAF où le FC San Pedro a enregistré un match nul et une défaite lors de ses deux premières sorties. Amani Yao devra aussi remporter le championnat.
Ligue des champions ce soir.
Pas de suspense dans le groupe B. Le Bayern Munich et Tottenham ont déjà validé leur billet pour les huitièmes. L'Atlético Madrid sera qualifié s'il bat le Lokomotiv ou si Leverkusen ne bat pas la Juventus Turin. Déjà qualifié également, assuré de finir premier du groupe A, le PSG n'a plus qu'un seul objectif à remplir, terminer son premier tour européen invaincu avec 5 matchs en 6 journées. Au Parc des Princes, la réception de Galatasaray, déjà éliminée, sera sous haute surveillance en tribune en raison des affrontements entre supporters des deux camps. Le 13 mars 2001, le Real Madrid entend confirmer sur la pelouse de Bruges.
NBA, Miami et Philadelphie, intraitables à domicile.
Oui, les deux équipes ont de nouveau gagné sur leur parquet, respectivement contre Denver et Atlanta. Le Heat de Miami a rétabli une situation mal engagée pour battre Atlanta 135-121. Après prolongation, la 11e victoire dans sa salle en autant de rencontres, Philadelphie a de son côté battu Denver 97-92, son 13e succès à domicile cette saison. Le Camerounais Joel Embiid a marqué 22 points, dont deux lancers francs importants à 15 secondes du terme pour sceller la victoire des Sixers. Charlotte s'est imposée de son côté 114-107 devant Washington. Le cauchemar continue pour New York, battu 115-87 par Portland.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dossiers du jour. L'armée nigérienne dans la zone d'Inates, près de la frontière du Mali, a été une nouvelle fois la cible d'une attaque djihadiste. Cette attaque de ce mardi est la deuxième en deux jours contre des positions de l'armée. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Niamey le directeur d'information de l'événement, Moussa Aksar.
Les assaillants ont pris soin, et selon nos sources, et de couper toute communication de la base avant de l'attaquer sur trois positions. Et malheureusement, ça s'est soldé par la mort de plusieurs soldats nigériens et plusieurs portiers disparus. Le président Issoufou, qui est en déplacement en Égypte, aurait écourté sa visite pour il sera à Niamey d'un instant à l'autre et nous attendons vraiment le bilan officiel de cette attaque qui est encore endeuillée. Et les populations nigériennes.
Pourquoi justement ce camp est visé régulièrement?
C'est un camp qui se situe non loin de la frontière malienne. Il se trouve que entre ce camp, entre les positions de l'armée nigérienne et les positions de l'armée malienne, c'est un no man's land entre le Mali et le Niger. Et c'est la zone de prédilection des groupes armés qui peuvent venir attaquer nos positions et repartir tranquillement au Mali où ils trouvent un terrain qui leur est favorable. Donc c'est cette situation qui fait que nous, chaque fois au Niger, nous recevons le secours de ces terroristes qui viennent attaquer nos positions et aller se réfugier au Mali. Si vous vous rappelez, le 1er juillet 2019, il y a eu aussi une attaque de cette position d'Inates par des groupes terroristes qui venaient du Mali.
Si des djihadistes ont réussi à couper les moyens de communication des militaires avant de les attaquer, c'est qu'ils disposent de moyens importants et efficaces.
Pour l'instant, on peut parler des failles dans un système, puisque si vous vous rappelez, il y a eu une attaque le 1er juillet 2019. Aujourd'hui, ils viennent encore attaquer avec des moyens colossaux. On peut dire que le système de renseignement a failli parce que, comme vous le savez, il fallait mettre un dispositif important depuis cette attaque, un dispositif de renseignement important. Est-ce que les autorités nigériennes ont mis ce dispositif important? Est-ce pourquoi il n'y a pas eu de communication entre certaines unités? Ça, je ne saurais vous le dire. Là, on attend d'abord le bilan, on attend les explications du gouvernement qui va se prononcer ensuite. Pour l'instant, c'est à chaud. On n'a pas les informations. Les premières unités qui sont parties rejoindre ce camp ce matin, ils ont constaté vraiment le désastre. Nous attendons vraiment le retour de certaines informations.
Est-ce qu'on peut dire que les djihadistes sont bien informés sur les failles au sein de l'armée nigérienne?
Les djihadistes sont informés parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a apparemment des failles dans le système de renseignement, mais aussi il y a les djihadistes qui bénéficient de certaines complicités au sein des populations, il faut le dire, populations qui sont le long de la frontière où les gens s'adonnent à des trafics de tout genre, notamment de drogue, et trouvent que le premier ennemi est l'État.
Le directeur d'information de l'événement à Niamey, Moussa Aksar.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Gabon, l'attribution des marchés publics est au cœur de la lutte contre la corruption. Plusieurs projets d'investissement sont laissés à l'abandon à cause de contrats mal ficelés. La route nationale du Gabon en fait les frais. Sur les traces de ce tronçon de tous les dangers, le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Nous sommes au kilomètre 80 de Libreville. La principale voie de sortie et d'entrée de la capitale gabonaise est parsemée d'embûches et non des moindres. Des bourbiers géants sont formés le long du trajet depuis le retour de la saison des pluies. Les colonnes de véhicules sont prises au piège. La colère gronde au sein des transporteurs et autres voyageurs.
On est coincé entre le 80 et Kango. Même vous voyez, pour que les véhicules sortent, il faut qu'un engin puisse les tirer.
2h du matin, je suis bloqué. Après, les Gabonais parlent qu'ils ont les routes chez eux. Hein, quelle honte. Quelle honte. Vraiment, oh, il y a la route. Voilà, ça depuis 2h du matin. Je sais qu'il y a Yaoundé. Il y a le goudron là-bas, mais ici, là, il y a pour deux.
Le gouvernement, dans une récente déclaration, a indiqué que la situation actuelle de la route nationale du Gabon est liée à l'abandon des chantiers par plusieurs sociétés dont les contrats ont été mal ficelés par les administrations, et d'ajouter que certains responsables ont été mis entre les mains de la justice. En attendant la lumière sur ces enquêtes anticorruption, c'est la désolation en zone rurale. Georges Boulengui, notable du village Ayémé, situé à une centaine de kilomètres de Libreville.
Dans la sous-région, le Gabon est le pays le plus riche. Mais malheureusement, quand nous regardons nos routes, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. On promet au ministre des Travaux publics de l'argent pour réhabiliter la voie. On prend cet argent, on envoie les enfants d'Europe, on fait n'importe quoi. Mais alors, le Gabon, comment voulez-vous que le Gabon puisse avancer? Le Gabon ne peut pas avancer dans de telles conditions.
Alors que le pays, toujours dépendant des importations alimentaires, redoute une pénurie sur les marchés, une mission du ministère de l'Équipement vient d'inspecter le tronçon de tous les dangers, annonçant des mesures urgentes. Flore Chantal Ngono, directrice générale adjointe de l'entretien routier.
Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de bloquer la circulation, surtout au niveau des grands porteurs, pour 2 jours. Nous avons aménagé une déviation qui permettra aux petits véhicules de contourner le bourbier et nous laisser vraiment la possibilité de travailler.
Pour compenser l'usure des routes, les autorités envisagent une redevance que devront payer les transporteurs de grumes, en partie responsables, selon elles, de ce désastre. Ismaël Obianze, de retour du village Ayémé, pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, la journée internationale de lutte contre la corruption a été célébrée ce 9 décembre. Selon Transparency International, la corruption fait perdre à l'Afrique le quart de son PIB, devenant le continent qui souffre le plus de ce fléau. Les mécanismes anticorruption sont-ils efficaces? Les populations jouent-elles leur rôle pour combattre le mal? Comment les institutions financières internationales peuvent-elles aider les gouvernements dans la traçabilité des fonds volés? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les femmes congolaises se plaignent du mauvais traitement dont elles sont victimes pendant les rites de veuvage. Elles estiment que leur dignité est souvent bafouée et demandent que les autorités mettent fin à cette situation en interdisant ces pratiques dans le prochain code de la famille. Correspondance à Brazzaville d'Arsène Séverin.
Les pleurs pendant le décès de l'époux ne symbolisent pas seulement la douleur de la veuve, mais également et surtout la crainte de vivre le pire moment de sa vie. Le veuvage, un ensemble de rites et de dures épreuves que redoute la femme congolaise. Veuve Anne-Marie Paul Bakan.
On barricade l'autre là à la chambre. Tu peux pas te laver, tu peux pas manger à l'heure où tu as faim. Et puis pour l'innovation de ton mari, on te demande 400 000, 1 500 000, 2 millions même. Surtout si tu travailles. Vraiment, c'est malheureux. Oui, on dénonce ça. Mais c'est la famille, la belle famille qui prend cette décision. Parce que là maintenant, le mari est mort.
Très souvent, après le deuil du conjoint, la femme est mise dehors avec ses enfants. Une double douleur que dénonce la veuve Berthe Makita.
On te met dehors avec les enfants, alors qu'est-ce qui va devenir cette famille-là? Dans la rue, c'est pourquoi les enfants qui sont délaissés, on les retrouve dans les rues, ils deviennent des barbares, des bandits, des voleurs, des braqueurs, des bébés noirs.
Ces épreuves relevant de la tradition sont malheureusement appliquées avec vigueur par les femmes contre les femmes. Veuve Madeleine Miankaba.
Oui, par les femmes, mais nous serons là à conscientiser les femmes, surtout nous et les autres aussi qui viennent, nos filles aussi.
qui seront plus tard aussi des veuves, elles aussi. Donc on sera là pour les conscientiser, pour arrêter tout ça.
Pourquoi, dans une société moderne comme le Congo, le poids de la tradition contraint encore les femmes à vivre un cauchemar qui remonterait des années 50? Professeur Auguste Miabeto, spécialiste des langues et traditions congolaises à l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville.
Il y a une décantation des traditions qui doit se faire. Il y a des choses du passé qu'on ne peut plus récupérer aujourd'hui. Les valeurs vivantes peuvent demeurer, mais les antivaleurs, il faut les écarter. Les antivaleurs font très mal à la veuve. Il y a des traditions féminines qui sont là. La veuve qui est enfermée et qui est agressée par les belles-sœurs. Les hommes sont dehors et ils n'y sont pour rien. Bon, mais il faut éduquer la femme.
Pour aider les femmes à faire entendre leur voix, le QDOC, une ONG des droits de l'homme, a initié une démarche envers les autorités pour que le futur code de la famille abolisse clairement ces traitements inhumains et dégradants. Gaspard Mianantima, président du QDOC.
L'objectif visé, c'est de permettre à la veuve, un, qu'elle connaisse ses droits et qu'elle sache les défendre. Deuxièmement, elle doit s'investir à sortir la veuve congolaise de ce que nous appelons esclavage.
En attendant, les pleurs qui s'élèvent dans les veillées mortuaires au Congo traduiront toujours l'amertume d'une veuve maltraitée par sa belle famille. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La région du Sahel en Afrique émet beaucoup moins de gaz à effet de serre comparé à des pays comme les États-Unis et la Chine, mais avec des températures dans la région qui augmentent 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale, le Sahel subit de plein fouet les effets du changement climatique. Le lac Wenya au Mali, qui fournit de la nourriture et de l'eau à des milliers d'habitants, se rétrécit en raison de la montée de la chaleur et d'une pluviométrie imprévisible. Le point avec Abdourahmane Dia.
Pendant des générations, la pêche sur le lac Wenya au Mali a été une source de vie et de revenus pour Modeste Traoré. Il avait espéré passer le flambeau à certains de ses enfants, mais son rêve est menacé par la hausse des températures et l'évaporation de l'eau sur le lac.
Si ça continue, je ne pense pas que nos enfants puissent devenir pêcheurs. Mais nous essayons de nous assurer que l'eau du lac ne disparaisse pas complètement.
Les précipitations imprévisibles et l'érosion ont également exercé une pression énorme sur les communautés.
Le problème est que le lac rétrécit et que l'eau ne reste pas assez longtemps comme avant. Elle devient complètement sèche à un moment de l'année, ce qui nous inquiète beaucoup.
Au cours des 20 dernières années, le lac a tari à plus de 80% pendant la saison sèche, selon Caritas Suisse, une ONG qui mène un projet environnemental dans la région. Le coordonnateur local Moussa Savadogo affirme que l'amélioration des pratiques agricoles et la gestion de l'eau sont cruciales.
Au moment de la décrue, les communautés descendent dans le lit du lac pour faire des périmètres maraîchers. Et au moment de la crue, tout le monde sort de ce lac en laissant les débris, les haies vives, les haies mortes dans le lac.
Et ce n'est pas tout.
Les insuffisances pluviométriques, plus les attitudes, le comportement des communautés, s'ils ne changent pas, vraiment dans 5 ans, le lac risque de disparaître.
Savadogo affirme que les habitants prennent des mesures pour préserver le lac. Ils ont planté 56 000 arbres pour reconstituer la forêt et maintenir leur source de vie. Il insiste sur l'importance de ce lac pour les gens qui y vivent.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Sur la voix de Maria Carré, nous allons clôturer cette édition. Merci de nous avoir suivis. Cheikh Chiro était à la mise en onde, Justine Thwaite à la console, à la présentation, et Kiabadou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.